reprendre nos activités. Et nous allons, donc j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Farge, qui est maître de conférence à Paris 3, qui vient de terminer son HDR. D'ailleurs, on le félicite. et qui est un peu spécialiste donc de mouvements sociaux. Alors, il avait fait sa thèse sur un tout autre sujet, en travaillant sur le Canada, je crois, hein, c'est ça, sur les. Et là, il a changé complètement de sujet. Et donc maintenant, il s'intéresse au genre et là, il va nous parler aux mouvements sociaux et aux mouvements des squatteurs. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il nous propose maintenant son intervention donc sur Kreuzberg 36, j'essaye de lire à l'envers, hein, se révolte. Donc, alors après, occupation d'immeubles et luttes urbaines à Berlin entre 1979, c'est ça, et 1982. Voilà. Donc, Patrick, je te donne la parole.
Pardon ?
Les en histoires, plus, les en plus, on va pas.
Non, les histoires de périodisation ayant cela d'intéressant, qu'elles permettent justement de discuter du fait que de la constructivité ou de la construction des périodisations, et que c'est ça qui est finalement la chose la plus intéressante. Voilà. Alors je vais quand même remonter un peu avant, hein, soyez rassurés. Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin, ça s'intitulera plutôt années 70 et 80. Voilà, mais il fallait trouver un titre pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, à la fin des années 60, et en réaction à un certain urbanisme fonctionnaliste, dont nous allons peut-être entendre parler plus tard, naît une pensée critique qui souligne que l'organisation spatiale est un élément déterminant de la vie sociale. L'urbain est repensé comme un ensemble d'espaces multiples produits par des pratiques et des usages sociaux soumis à différents rapports de pouvoir. Nés dans le sillage des mouvements étudiants de la Nouvelle Gauche, et les nouveaux mouvements sociaux en RFA se sont saisis en partie de ces réflexions spatiales. Parmi ces groupes, il y a les groupes d'entraide, les centres de soins alternatifs, les mouvements des minorités sexuelles, divers mouvements autonomes et le mouvement des occupants d'immeubles, la Hausbesetzerbewegung. Pour les personnes mobilisées, il s'agissait notamment de créer des Freiräume, c'est-à-dire des espaces d'intérêt collectif et d'usage public, libres, mais aussi libérés de certains rapports de domination. Le cas de Berlin-Ouest, et le cas de Kreuzberg en particulier, est parlant, notamment parce que Berlin-Ouest rassemble une scène, un milieu alternatif de gauche, où se construisent des logiques subculturelles collectives, nous en avons déjà entendu parler, qui contribuent à faire la ville, qui contribuent aussi à faire la ville. En retour, les identités collectives urbaines se sont créées par des mobilisations au quotidien rattachées à des lieux précis, donc verankert. C'est ce qui va m'intéresser ici. Une première manière d'aborder le phénomène kreuzbergeois est de s'intéresser aux slogans brandis lors de manifestations ou sur les façades d'immeubles. Ils offrent un mélange de radicalité politique assumée, d'utopie urbaine à construire et de références historiques et culturelles, mais aussi d'inventivité linguistique propre à d'autres mouvements sociaux, mais aussi à celui-là. Donc, vous reconnaîtrez au passage les références « Friede den Besetzern, Kampf den Besitzern », quelque chose qui joue vraiment sur le jeu de mots qui est central pour ce mouvement qui est Lieber Instand besetzen, qui est un mot valise, als kaputt besitzen, que j'aime beaucoup, légal, illégal, scheißegal, pour donner quelques idées, plus politique et plus théorisé aussi, wir brauchen Räume, die ein herrschaftsfreies Leben zumindest vorstellbar machen, donc ça c'est vraiment l'idée des Freiräume. Ou bien « Scheiß drauf, wir sind jetzt drin », bon, qui est plus provocateur, et mon préféré, sans doute le dernier, « Kein Abriss unter dieser Nummer ». Les slogans produits en l'espace de quelques années dans les collectifs de Kreuzberg frappent par leur force rhétorique. Ils mettent en avant les braconnages, ça c'est du Michel de Certeau, façonnant l'espace public urbain à l'époque, et permettent un survol sémiotique de cette subculture militante. les nouveaux mouvements sociaux, tels qu'ils se sont exprimés à Kreuzberg à travers les occupations et la création d'espaces de vie alternatifs, allient des revendications issues d'une part de la démocratie radicale et de la participation citoyenne directe, et d'autre part d'une volonté de transformer le quotidien par des modes de vie anticonformistes. Il s'agit là de politiques de la première personne, donc c'est politique der ersten Person, hein, ça vient de Roland Roth et Dieter Rucht, où l'échelle microsociale joue un rôle primordial. La question des modalités de l'action militante y est déterminante, en particulier celle de l'utilisation ou non de la violence. Dans le même temps, le dynamisme, la jeunesse, l'inventivité, voire l'aspect insurrectionnel de ce milieu alternatif, remettaient aussi largement en question, dans le sillage des revendications intellectuelles de l'après 68, l'ordre socio-économique ainsi que le consensus politique hérité. C'est ce qu'exprime l'un des témoins de l'époque. Hausbesetzungen verunsichern und provozieren das politische Establishment und die mehr oder minder konservative Mehrheit älterer Westdeutscher. Kein Zweifel, Hausbesetzungen sind keineswegs isolierte Aktionen wohnungssuchender Vagabunden, sondern konkrete Demonstrationsversuche und Kristallisationspunkte einer handlungsorientierten Alternativbewegung, die nicht in papiernen Programmen und Postulaten stecken bleiben will. Donc c'est Karl-Michael Kunst dans un article publié donc au même moment à l'époque, Spontis, donc spontanéisten, Schlaffis und Chaoten. Je proposerai donc ici une histoire à l'échelle d'un quartier, en rappelant les étapes d'un mouvement qui s'étend sur quelques années. Ce sera aussi l'occasion d'aborder à une autre échelle et de manière décentrée l'histoire des politiques urbaines à Berlin-Ouest. Et je vais commencer par ce premier point. L'histoire des mobilisations urbaines à l'échelle d'un quartier s'articule dans un contexte plus large et multiscalaire qui caractérise largement l'histoire de Berlin dans l'après-guerre. Donc on l'a entendu à plusieurs reprises lors de ces deux journées. Berlin est observé évidemment à l'échelle internationale et interallemande dans le cadre d'une concurrence des systèmes qui influe aussi sur la politique urbaine. À l'échelle fédérale, Berlin-Ouest constitue un foyer de contestation. Et à l'échelle locale, plusieurs plans d'aménagement se sont succédés dans différents quartiers avec des modalités à chaque fois locales. Le contexte qui m'intéresse ici est celui des années qui ont suivi l'accord quadripartite sur le statut de Berlin de 1971, qu'Hélène Miard de la Croix a présenté tout à l'heure, qui est signé dans un contexte de détente. L'accord a eu pour effet collatéral de détourner l'attention internationale et de relâcher quelque peu les injonctions contradictoires qui pesaient sur la politique urbaine. À l'Ouest, cela s'est fait sous l'égide d'un Sénat où les sociodémocrates ont la majorité absolue entre 58 et 75, puis une majorité relative en coalition avec les libéraux dans la seconde moitié des années 70. La politique en matière de logement, de transport, d'éducation ou la politique en matière sociale sont ainsi largement confondues avec les options prises localement par le SPD en accord avec les Berliner Eigenbetriebe, donc les sociétés en régie directe. Le premier grand plan de rénovation urbaine à Berlin-Ouest, et je ne vais pas m'attarder trop là-dessus parce que je pense que ça va être l'objet du Vortrag Referat, de l'exposé suivant, voilà. Après la phase de reconstruction, a débuté dans les années 60 avec une volonté de créer du logement social. Il s'agissait de répondre à l'une des traces de la guerre, la problématique des logements vides et de l'insalubrité de certains îlots. Des zones, donc des Sanierungsgebiete, sont définies et c'est à Wedding que sont expérimentés des procédés, des techniques qui seront contestées par la suite en raison de leur radicalité et de l'absence de concertation. Donc, ces procédés, quels sont-ils ? La rénovation intégrale de grands périmètres urbains, Flächensanierung, par destruction totale, total après, ou partielle, notamment par le biais de l'évidement d'îlots, en termes de version, c'est très intéressant, l'évidement d'îlots, Blockentkernung, qu'on voit représenté ici aussi. Ces procédés ont été perçus comme menant à des coupes claires dans le tissu urbain, Kahlschlagsanierung. Et par ce biais, la priorité politique du Sénat, qui évoque d'ailleurs en 64 même le danger d'avoir des slums, des favelas au cœur de la ville, et d'empêcher la constitution de quartiers en crise et d'îlots dégradés qui concentrent les problèmes. Parallèlement, ce qui correspond d'ailleurs à une évolution générale des métropoles européennes jusque dans les années 80, la politique des transports est largement orientée vers une ville adaptée à l'automobile, donc die autogerechte Stadt. Dans ce cadre, il est prévu à Berlin-Ouest de percer des grands axes autoroutiers en accord avec les promoteurs. Or, le quartier de Kreuzberg est situé sur l'axe projeté de la Südtangente, de la tangente sud, et dans ce cadre, une partie du quartier doit être transformée en échangeur autoroutier. Ces projets, en gestation depuis le milieu des années 60, ont pris du retard, notamment parce que l'accord quadripartite de 71 a nécessité que ces projets soient adaptés sans toutefois être abandonnés. Le résultat en est que dans les quartiers concernés, l'investissement dans la rénovation du parc immobilier recule, les propriétaires spéculant sur les grands travaux à venir et donc n'investissant pas dans l'immobilier. Dès la fin des années 60 et le début des années 70, des voix se font entendre qui dénoncent la brutalité de la rénovation urbaine et réclament des formes plus douces. Donc je suis d'accord avec la traduction de M. Gaber sur « behutsam douce », qui respectent des cadres de vie locaux. En 75, dans le cadre de l'année européenne du patrimoine architectural, de gros efforts sont déployés dans l'ensemble des pays européens pour sensibiliser aux valeurs culturelles, sociales et économiques des monuments. Émerge alors l'idée de reconstruction et aussi de réparatur, donc de réparation urbaine, dans ce contexte, donc dès les années 70, dès le milieu des années 70. Pour autant, le système des grandes sociétés de logement berlinoises, donc les Wohnungsbaugesellschaften, est étayé pour des rénovations de grande ampleur et pas pour la concertation à petite échelle. Dans ce contexte, personne, ni les sociétés de logement, ni les acteurs privés, ni le Sénat n'a vu l'intérêt d'expérimenter de nouveaux modèles participatifs et les habitants étaient plutôt vus comme des perturbateurs qui venaient gêner les rouages d'une politique bien huilée. Le sénateur au logement, Harry Restock, déclare pourtant que la rénovation urbaine garantira dorénavant continuité historique et préservation des structures. Pourtant, le système, enfin, ce qui se montre dans la fin des années 70, c'est que le système politique en place est plutôt difficile à changer. Les sociologues de la ville, Hartmut Häusermann et Andreas Kaphan, font ainsi le constat amer que c'est bien la politique en matière d'urbanisme qui a produit les zones urbaines sensibles en négligeant le tissu social dans certains quartiers, au premier rang desquels Kreuzberg SO 36, donc Kreuzberg poudrière de Berlin. L'arrondissement de Kreuzberg est l'héritier du faubourg de la Luisenstadt qui a radicalement changé de visage durant la révolution industrielle. C'est ma deuxième partie. C'est un quartier à l'identité ouvrière, en particulier dans sa partie nord-est. Cette dernière, qui appartient à la zone postale Südost 36, l'ancienne zone postale, a gardé le nom pendant longtemps de SO 36 ou Kreuzberg 36, en partie jusqu'à aujourd'hui. Dans la mémoire, en tout cas, ça veut encore dire quelque chose. Durant les bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale, la zone est durement touchée et les trous urbains, dont il a aussi été question ce matin, tout comme les sites industriels à l'abandon, sont une réalité visible à Kreuzberg. De plus, Kreuzberg 36 est enclavé. Donc ça, c'est vraiment une représentation de cette situation. Au nord et à l'est, il y a à partir de 61 le mur. À l'est et au sud, la limite est marquée par la Spree et le canal. Dans les années 60, la zone autour de Kottbusser Tor, là, et du coup j'y suis perdu, non, est classée en zone d'aménagement en Sanierungsgebiet et des coupes claires y sont prévues. Cette zone se trouve dans l'immédiat voisinage d'un autre micro-quartier particulièrement enclavé autour de la Wrangelstraße. Donc on est là. On ne voit pas d'ici ? Vous voyez pas mon point ? Certaines personnes le voient. Donc le Wrangelkiez, c'est toute cette zone qui devient, donc c'est toute cette zone entre Kottbusser Tor et Wrangelstraße, Wrangelkiez, qui devient à partir des années 70 et 80 un point chaud. Alors qu'à Berlin-Ouest, la proportion de logements anciens et neufs est à peu près équilibrée à la fin des années 70, le déséquilibre en faveur de l'ancien reste encore très fort à Kreuzberg. Donc là, Kreuzberg ne correspond pas au profil général de Berlin-Ouest. en raison de la faiblesse des loyers liée à la décrépitude des bâtiments et au contrôle des loyers aussi qui s'exercent, SO36 est devenu en quelques années un lieu de vie pour différentes populations aux revenus limités, personnes âgées, étudiants, alternatifs, mais aussi populations d'origine immigrée, en particulier d'origine turque et en particulier autour de Kotposatois. Kreuzberg 36 a ainsi développé une forte identité locale et constitue, dans le vocabulaire berlinois, un Kiez, c'est-à-dire un quartier à l'identité marquée par des relations sociales de proximité et une dynamique culturelle propre. Dans le contexte d'une décennie marquée par les nouveaux mouvements sociaux, le quartier Kreuzberg 36 développe une économie alternative, des groupes d'entraide, des Geschichtswerkstätten aussi, dont on pourrait parler et dont il a été question ce midi avec... Enfin, et puis ce matin, et propose d'ailleurs une alternative politique, puisque c'est ce terreau qui voit naître aussi la liste alternative qui est précurseur des Verts. L'éventail de l'engagement est large et il inclut une réflexion concrète sur le fait d'habiter et de vivre ensemble, qui dépasse les mobilisations, les single issue movements. Donc là, on dépasse un petit peu la mobilisation à cause unique. C'est ce que dit l'un des témoins de l'époque. Für mich war es entscheidend, auch in einer größeren Gruppe zu leben, das Leben in der Gruppe halt zu organisieren und auch Versuche zu unternehmen, außerhalb der üblichen Arbeit selbst zu finden, Projekte oder irgendwelche Selbsthilfegruppen oder irgendwelche Angelegenheiten oder auch nur mal in der Arbeit mit den anderen Mietern hier, halt wirklich einen Versuch von unten, so eine Politik zu machen und die sich nicht immer von oben aufsetzen zu lassen. C'est du langage oral retranscrit hein, ici. En 79-80, la crise du marché du travail accentue la nécessité de ces économies alternatives qui reposent sur l'entraide, le troc et la solidarité. Faire Kiez est donc intimement lié aux caractéristiques sociales, mais aussi aux formes de logement locatif et aux formes du bâti. À partir des années 70, la pression immobilière augmente fortement, aussi en raison de l'augmentation du nombre de ménages individuels, qui passe de 44 à 53% au cours de la décennie 70. Pourtant, dans le même temps, la démographie de Berlin-Ouest est en recul global. Environ 40% des ménages ont un revenu faible, 15% sont au seuil de pauvreté, 80% des ménages dépensent un quart ou plus de leurs revenus pour le loyer. Donc dans ce contexte, évidemment, la perspective de rénovation, de destruction et de rénovation pour faire du logement neuf est particulièrement anxiogène pour une partie de la population qui n'a pas les moyens. Pour donner une idée, le loyer plancher dans le logement social neuf est de 6 marques par mètre carré, alors qu'il se situe entre 1,80 et 4 marques, donc entre un tiers et la moitié, un tiers de moins et la moitié, dans l'ancien non rénové. Donc il y a un véritable enjeu social aussi derrière cette question. La tradition des occupations d'immeubles à Kreuzberg débute au début des années 70. Des organes de concertation et de participation des habitants existent dès 1974, avec par exemple la mise en place d'un conseil de quartier à Kotposatois qui réclame d'être consulté à propos de la construction du grand ensemble Neues Kreuzberger Zentrum qui est décidé en 71. La résistance des habitants conduit à un ralentissement des travaux. En 77, un appel à projet Strategien für Kreuzberg est lancé qui conduit à un quartier en une initiative citoyenne, une Bürgerinitiative, on est en pleine période des Bürgerinitiativen, la Bürgerinitiative SO36, eingetragener Verein, qui démarche individuellement les habitants. C'est d'ailleurs cette Bürgerinitiative qui va jouer un rôle, puisqu'elle organise d'une certaine manière les discussions dans le quartier. En 78, poursuivant et élargissant les réflexions de Strategien für Kreuzberg, le Sénat décide d'organiser ce qui deviendra ensuite l'IBA, l'Internationale Bauausstellung, afin de répondre à la question de la reconquête du centre-ville comme lieu d'habitation, Wiedergewinnung der Innenstadt als Wohnort. Il s'agit de proposer des... Mais ça mettra... C'est un processus qui est lancé en 78 et qui va aboutir en 87. Donc c'est lent, c'est un très lent processus. Il s'agit de proposer des projets de rénovation urbaine douce, behutsame Stadterneuerung, et la Bürgerinitiative est reconnue comme interlocuteur légitime. Mais les débuts sont lents et frustrants. En 77, la coalition sociale libérale a en effet proposé un nouveau modèle de participation où les habitants choisissent leurs représentants. Mais la mise en place de ces structures de concertation patine et le nombre de mécontents grossit. La mobilisation par le bas réclame un changement plus radical. Elle contribue de manière déterminante à l'émergence de nouveaux acteurs sociaux et à une prise de conscience collective qui finira d'ailleurs par se retourner quelques années plus tard contre la politique de la ville. Un pamphlet de l'époque, que je ne vais pas citer, que je vous laisse lire, intitulé « Zone libre, rechtsfreie Räume », rappelle les enjeux de cette mobilisation. Et je rappelle aussi quelques références en bas d'ouvrages consultés pour ici. La deuxième moitié des années 70 annonce la fin de la vague rouge social-démocrate à Berlin-Ouest. En mai 77, le maire Klaus Schütz démissionne en raison d'un scandale financier qui implique un membre du Sénat. Il est remplacé par Dietrich Stobbe, toujours SPD, mais le SPD s'est coupé d'une partie de la population jeune et alternative qui aspire dans l'après 68 à des changements plus radicaux. Et donc j'en arrive au cœur du papier qui est donc sur ce mouvement d'occupation d'immeubles. Le mouvement d'occupation qui débute en 79-80 constitue une mobilisation protestataire spectaculaire contre la politique de rénovation urbaine, contre les failles du marché locatif, contre les coupes claires occasionnées dans le tissu urbain et contre la politique de dédensification. Le changement de paradigme sous l'égide du sénateur au logement Harry Redstock, qui prône une politique douce, n'y change rien. Les premières rénovations douces ont en réalité produit des logements de plus haut standing qui ont renforcé la pression locative à la hausse. Et certains propriétaires n'hésitent pas à ce moment-là à accélérer la dégradation du bâti ancien en cassant les fenêtres ou en abîmant les toitures. Donc le mouvement d'occupation de 79 à 82 se nourrit de ces revendications sociales-là, alors même qu'au tournant des années 80 à Berlin-Ouest, plusieurs dizaines de milliers d'unités de logements et des centaines d'immeubles sont vides. Il y a par ailleurs pénurie de logements parce qu'il y a d'une certaine manière spéculation immobilière qui empêche que ces logements soient mis sur le marché. Le 3 février 79, tout commence et l'initiative citoyenne, la Bürgerinitiative dont je parlais tout à l'heure, investit illégalement deux appartements situés dans deux immeubles appartenant au bailleur social Bévogué. Cela marque le début d'une série d'occupations dans le quartier. Dans la Couvrichstraße, qui se trouve dans le Wrangelkiez, au numéro 20, 23 et 25, 27, des destructions sont prévues afin de permettre la construction d'immeubles neufs de standing. Le 26 novembre 1979, des membres toujours de la Bürgerinitiative occupent trois appartements au numéro 25. Mi-décembre, le bailleur social, Bévogué, procède à une destruction partielle, malgré tout, bien que ce soit occupé, du numéro 27. C'est à cette occasion que le mouvement prend son nom. Il s'appellera, avec ce mot valise, Instandbesetzerbewegung, donc qu'on peut traduire par mouvement d'occupa-rénovation, puisqu'il s'agit à la fois de Instand setzen, mais par la Besetzung. Donc il s'agit de rénover de manière respectueuse du bâti ancien au moyen d'une occupation illégale. La logique première, ça c'est intéressant, vise toutefois à obtenir des contrats. L'objectif premier est de régulariser la situation à terme. Et lorsque les premières régularisations ont lieu, signe que la stratégie est payante, alors le processus s'accélère. Le nombre d'unités occupées oblige rapidement le mouvement à se structurer. Donc ça, c'est assez commun à d'autres mouvements sociaux. C'est après une première phase, il y a une phase de structuration et d'imbrication des revendications. En 80, donc en mars 80, les représentants de divers immeubles occupés dans le quartier se réunissent dans la Couvrichstraße et créent le Besetzerrat K36, Kreuzberg 36, organe de représentation. Dorénavant, les rencontres seront hebdomadaires et une stratégie d'action commune est mise en place, ainsi qu'une stratégie de communication vers l'extérieur, ce qui rend évidemment le mouvement visible. Et puis se met en place un jeu du chat et de la souris avec la police, dans le contexte d'une méfiance des milieux alternatifs envers les forces de l'ordre. En plus, il y a un vide juridique, puisqu'il n'y a pas de loi interdisant explicitement l'occupation. Donc la police a recours à des articles du droit pénal et civil, comme par exemple les articles contre la violation de domicile, les vols et agressions, la consommation illégale d'électricité, les dommages à la propriété, voire dans le cas d'un accès entravé à certains immeubles, l'article 129A de soupçon d'association criminelle ou terroriste. Ce qui évidemment ne ravit guère les mouvements alternatifs. On se souvient de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 70, qu'on associe ça que le fait d'occuper les immeubles pour Instandsetzen soit associé à une action terroriste, parce qu'il y a un vide juridique. En juillet 80, les Stadt Indiana, qui sont un micro-mouvement de gauche radicale, occupent un immeuble qu'ils vont appeler le Geronimo House. Donc à partir de là, vous avez, c'est toute la liste que vous avez, la création d'un certain nombre de lieux mythiques qui prennent des noms, donc qui sont identifiés. Je passe rapidement là-dessus. Bon, c'est toujours très rhétoriquement efficace et drôle. Villa Kunterbunt, Villa Dröhn et Villa Chaotica forment un ensemble. Hein, c'est Vorderhaus et Seitenflügel. Autour d'une cour commune, donc celle qui est sur rue, c'est la Villa Kunterbunt, et puis derrière, vous avez la Villa Dröhn, où il y a beaucoup de musiciens, et la Villa Chaotica, où il y a tout le reste. Le cas du Kerngehäuse est intéressant aussi, puisque c'est une logique qui se met en place d'insularisation, qui sera d'ailleurs plus la logique après dans les années 90 dans l'est de Berlin, à la Mainzer Straße, où c'est tout un quartier, ou tout un bloc ici en l'occurrence, qui forme une île, donc un Kerngehäuse, qui est donc un noyau, un noyau, par occupation de proche en proche de plusieurs immeubles pour former un ensemble cohérent, dans lequel d'ailleurs on organise, donc ça s'appelle Kerngehäuse ou Kuvriland, donc un pays alternatif. L'îlot est dirigé par une association et comporte une crèche parentale, un atelier de mécanique, un centre d'entraide médicale, une société alternative de construction, un magasin coopératif, une éolienne pour l'énergie, une école de langue, le théâtre Ratibor qui existe toujours, ou encore le Kuvriland Truma Orchestra qui est une fanfare alternative. Je passe sur le Hexenhaus, le Heilerhaus et le Kuckuck, mais c'est un peu l'idée que on crée voilà comme ça des lieux et qu'on crée finalement une géographie alternative à l'intérieur même du quartier. Alors ce qu'il est intéressant de noter, c'est vous avez donc un site qui s'appelle Berlin Besetzt, qu'on peut aller voir, hein, qui se poursuit au-delà des années 80, puisqu'il y a eu ensuite une dynamique d'occupation à l'Est, plutôt à partir de 1990. Et ce qu'il est intéressant, c'est de voir défiler donc effectivement la concentration du phénomène entre 79 au début, 80, 81, 82, ça commence à diminuer. Donc c'est vraiment c'est la raison de ma chronologie, micro-chronologie ici. 79 à 82, ça forme un ensemble à l'intérieur d'une histoire un peu plus longue qui est celle des Hausbesetzungen. Mais il se passe vraiment quelque chose en particulier à SO36 dans ces années-là. C'est en 81 qu'il y a la phase la plus tendue de ce phénomène, évidemment, se traduit aussi par des arrestations. Donc, je vous passe cette histoire, ce sera publié, j'imagine, mais comme il faut que je réduise un peu, je vais couper cela. Ce qu'il est plus intéressant de noter, c'est que la radicalisation croissante au cours de l'année 1981 conduit aussi à un clivage irréconciliable entre les Hausbesetzer, à l'intérieur même du mouvement, entre d'un côté celles et ceux qui sont organisés au sein d'associations et de la Bürgerinitiative, et ceux qui sont là depuis le début en fait, et qui veulent négocier. Ce sont les Verhandler, ceux qui veulent obtenir in fine un bail, un contrat de location, rester là où ils sont, mais de manière légale. Et celles et ceux qui ne le veulent pas, les Nichtverhandler, et qui peuvent en partie être rattachés à l'archipel complexe des mouvements radicaux autonomes, cet archipel des Autonomen. Selon des témoins de l'époque, la ligne de fracture sépare donc les Galos des Krawallmacher. Krawallmacher, qui est un terme qu'on a entendu hier chez Valérie Robert, qui est repris aussi dans la presse du groupe Springer. Donc, je vous laisse lire les témoignages qui viennent de part et d'autre, hein, des Verhandla et des Nicht-Verhandla à propos des autres. Donc, ça se passe pas très bien à l'intérieur du mouvement. La tension est renforcée par les aléas politiques que connaît Berlin-Ouest en 1981, à savoir l'année des trois maires. Le 15 janvier 1981, Dietrich Staub est contraint à la démission pour une affaire qui implique, l'affaire Garski, qui implique justement la politique de la ville, la politique urbaine. Lui succède Hans-Jochen Vogel, figure d'envergure fédérale au SPD et ancien maire de Munich, qui devient donc le maire de transition pendant 100 jours. Et d'emblée, Vogel cherche le dialogue avec le mouvement et plaide pour qu'on distingue entre deux catégories d'occupants rénovateurs, entre les Verhandler et les Nicht-Verhandler. Par exemple, à Hans-Jochen Vogel, la simple violation de domicile, Hausfriedensbruch, sans dégradation, est tolérée. En guise de mea culpa politique, Vogel met aussi en place une commission d'enquête sur les manquements en matière de rénovation et de modernisation urbaine et sur le retour à la paix sociale. Donc il critique lui-même la politique qui a été mise en place en matière d'urbanisme avant lui. Il prend aussi des mesures immédiates, chiffrées à 20 millions de marks, visant à tester des modes de vie alternatifs et à financer des modes de vie alternatifs. Il formule en mars 81, Vogel toujours, la politique de la Berliner Linie, parfois aussi appelée Berliner Linie der Vernunft, qui sera entérinée par son successeur, Weizsäcker. Cette Berliner Linie dit que toute nouvelle occupation se soldera par une évacuation sous 24 heures. En contrepartie, les immeubles et appartements déjà occupés ne sont évacués que si le propriétaire porte plainte explicitement et s'engage à une rénovation rapide. Donc c'est une forme vraiment de compromis qui est trouvé, qui est en tout cas exprimé par Hans-Jochen Vogel et qui est reprise ensuite par son successeur. Donc dans le contexte de la campagne politique entre CDU et SPD à Berlin en 81, le mouvement des occupants a peur aussi des options que pourrait prendre la CDU. Et ça contribue aussi à la radicalisation, puisque le congrès fédéral de la CDU à Mannheim cette année-là a par exemple des idées très arrêtées sur la fin du marché locatif protégé. Donc la CDU a annoncé dans son congrès fédéral que, et ça a évidemment un impact sur la CDU locale, on a très peur que la CDU locale se tienne à cette idée que le marché locatif protégé soit supprimé et soit donc aligné sur le marché locatif normal. La victoire de la CDU aux élections de mai 81 constitue évidemment une rupture politique importante. Et en même temps, bon, évidemment, le SPD essuie une défaite cinglante, ça met fin à 35 années de pouvoir. Les élections marquent aussi l'entrée de la liste alternative qui a obtenu 7,2% des suffrages et 12 députés à Berlin-Ouest. Bon. Mais en même temps, d'un point de vue de la ligne politique vis-à-vis du mouvement d'occupation, il y a une grande continuité entre SPD et CDU, avec Weizsäcker, qui avait d'ailleurs, pendant la campagne, dit, et ça c'est la citation en bas, « keine Räumung um der Räumung willen ». Donc il va se tenir d'une certaine manière à cela. Mais à l'intérieur du Sénat de Weizsäcker, il y a deux personnalités qui s'opposent, et ça va continuer pendant toute la mandature de Weizsäcker, en fait, qui va continuer d'avoir des problèmes avec les occupants. C'est la ligne politique entre le sénateur à l'intérieur qui s'oppose à celle au sénateur au logement. Donc Rastemborski, qui est le sénateur au logement, n'est pas du tout sur la même ligne que le sénateur à l'intérieur qui, lui, veut faire évacuer. Donc il s'appuie sur la Berliner Linie der Vernunft pour évacuer, alors qu'en face, on a un sénateur au logement qui rame en essayant de continuer de discuter et de arriver à des positions de compromis. Voilà, il y aurait encore des choses à dire, notamment sur les affrontements qui se qui se poursuivent en 81-82, parfois avec une violence, une gradation de la violence aussi, avec des choses qui deviennent assez spectaculaires dans un autre quartier de Berlin, parce que il faut dire aussi que ça n'est pas uniquement à Kreuzberg, ici c'est un cas, mais il y a des choses similaires qui se passent autour de Winterfeldplatz à Schöneberg, dans d'autres quartiers de Berlin-Ouest. Voilà, il y a un mort en 81, un jeune étudiant qui se fait faucher par un bus dans le cadre d'une manifestation. Ça échauffe les esprits, etc. Toujours est-il que à la fin de l'année 81, les choses se calment un tout petit peu, et au début de 82, puisque le Sénat se prépare et va voter en 83 des 12 principes d'une rénovation urbaine douce, où il sera question donc de Substanzerhaltung. Là, on retrouve le mot de Substanz, mais dans un autre sens que hier dans l'exposé d'Elisa Goudin. Il y est question donc dans ces 12 principes que le Sénat vote, il est question de maintien de la substance urbaine, enfin du bâti, de caractéristiques propres à Kreuzberg, donc de Eigenart Kreuzberg, ça c'est très intéressant en termes de reconnaissance d'une identité locale, d'aménagements conformes aux besoins, hein, Bedarfsgerecht, de participation, Beteiligung, de représentation des habitants, Betroffenenvertretung. Et finalement, en septembre 83, le Sénat conclut un accord fiduciaire avec une société immobilière alternative, enfin qui émerge en tant qu'acteur alternatif, qui s'appelle Stadtbau, avec deux T. En conclusion, c'est finalement la ligne des, si on prend un peu de recul, c'est finalement la ligne des négociateurs et des légalisations qui l'a emporté. La révolte de SO36 a accompagné un changement politique qui, s'il avait été annoncé, n'avait pas été mis en place ou alors trop lentement. Comme on peut le faire remarquer pour d'autres mouvements sociaux, celui des Occupa Rénovateurs s'est fait un chemin vers les institutions et a trouvé une représentation politique au sein de la liste alternative. Ce chemin, der Weg zur Institution, zu den Institutionen, ce chemin s'est fait au détriment de la frange la plus radicale, la plus jeune et parfois aussi la moins berlinoise. On estime à quelques centaines de personnes le noyau radical du mouvement sur un total d'environ 12 000 membres du mouvement des occupants rénovateurs et sympathisants. Hein, 12 000 membres et sympathisants. Donc un noyau d'une centaine de quelques centaines par rapport, très radicaux, par rapport à un ensemble de 12 000. Les personnes qui ont vécu et milité ensemble entre 79 et 82 venaient de milieux très divers. Il y avait des militants de gauche radicale et autonome, des étudiants, des punks, des alternatifs, des membres d'initiatives citoyennes et aussi des habitants d'origine. Et ces différences sociologiques ont contribué à fracturer le mouvement autour de la question de la négociation versus la non-négociation. Certains expriment une certaine déception, et c'est le poème militant que vous pouvez lire ici, qui exprime donc une certaine déception par rapport aux idéaux et aux volontés que ce mouvement a pu mettre en avant. Ce sont finalement les lieux, les infrastructures et les modes de vie alternatifs qui ont perduré à Kreuzberg, en partie jusqu'à aujourd'hui, entre magasins bio, jardins d'enfants parentaux, cinéma alternatif et formes d'économie sociale et solidaire qui englobent tous les domaines de la vie. Pour qui voulait vivre à la Kreuzbergeoise, il y avait même une Bible, le Westberliner Stadtbuch, qui répertoriait les lieux, groupes et projets alternatifs. Kreuzberg est resté en partie un autre lieu, une hétérotopie, hein, chère à Michel Foucault, et d'ailleurs c'est Libéa qui a... Donc c'est dans ce milieu-là, disons, qu'on a publié le texte en allemand, en traduction allemande, peu avant la mort de Foucault, et avec son accord sur les hétérotopies, sur les autres lieux. Si la rénovation douce à échelle humaine et participative est devenue un attendu de toute politique urbaine aujourd'hui, les luttes n'en ont pas cessé pour autant. Après la chute du mur, une nouvelle vague d'occupation a lieu, à Berlin-Est cette fois, à Prenzlauer Berg, mais surtout à Friedrichshain. Et ces 20 dernières années, il y a des tas d'études sur la Mainzer Straße, c'est ça en particulier, en 1990. Alors là, c'est à plus grande échelle, c'est toute une rue qui se barricade, enfin tout un côté d'une rue qui se barricade et qui veut créer un ensemble alternatif. Ces 20 dernières années, aussi la prise de conscience des effets de la gentrification, du rôle que jouent les pouvoirs publics dans l'accompagnement du changement social et de l'éviction des couches socialement faibles hors des centres-villes n'est pas sans rappeler les débats des années 70 et 80. La ville reste donc un terrain d'étude primordial pour une géographie sociale radicale. Je vous remercie.
Okay, merci donc Patrick pour ce passionnant exposé donc sur ce mouvement des squatteurs et sur l'histoire un petit peu de ce quartier de Kreuzberg. Je passe tout de suite la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Le micro arrive en tout cas. Donc, alors, Hélène.
C'est vraiment une petite question. Est-ce qu'il y avait des différences et des spécificités revendiquées dans les squats de Berlin par rapport aux squats des autres villes? Moi, je me souviens, dans les débuts des années 80, il y avait des squats à Fribourg, il y avait des squats dans plusieurs... La plupart des villes universitaires, il y avait des squats. Mmh. Et comment ça circulait?
Alors, la question de la circulation est intéressante. Il y a notamment une thèse publiée par Andreas Zotner, qui a fait sa thèse sur la comparaison entre Zurich, Berlin et, il me semble que le troisième, c'est Amsterdam, et qui montre qu'en partie... Alors, les circulations ne se font pas nécessairement vers Zurich et vers Amsterdam, mais qu'en revanche, Vienne, Zurich, Berlin. Andreas Zotner, Betonbrennt. Le livre s'appelle Betonbrennt. Et qui montre que, comme dans d'autres mouvements ou dans d'autres... Berlin-Ouest est très attractif pour les alternatifs, et que donc on va voir à Berlin-Ouest ce qui se passe, même si en fait à Vienne, il se passe des choses avant. Mais il n'y a pas cette circulation, elle est inégale, voilà, c'est ce que je vais dire. D'après ce que j'ai lu, hein, parce que je suis pas non plus spécialiste, mais c'est Andreas Zotner qui l'est et d'autres. Il y a ces circulations dans un sens, mais pas tellement dans l'autre. Donc on regarde plutôt vers Berlin-Ouest. D'ailleurs, la scène, le milieu des occupants est très international, comme souvent la scène punk aussi l'est. C'est ce qu'on a évoqué ce matin. La scène musicale punk, par exemple, où il y a des Anglais. Enfin voilà. C'est plutôt comme ça qu'il y a ces circulations. Alors après, je ne sais pas si en retour, en revenant en Angleterre, en revenant aux Pays-Bas, en revenant, ils ont emporté quelque chose, des modes d'action qui sont qui sont pas spécifiques non plus. Hein. C'est vrai que la constellation, notamment des autonomes entre Hambourg et Berlin, se parle pour militariser le mouvement et pour créer, par exemple, aussi un corps d'infirmiers alternatifs, parce que quand ça commence à cogner, il faut qu'il y ait des infirmiers, donc ils sont avec des casques de moto et des blousons de cuir, et qu'on retrouve dans différentes villes, notamment en Hambourg. Donc là, il y a vraiment une pensée commune de la radicalisation et de la militarisation de l'action militante.
Oui, merci beaucoup Patrick Farge pour cet exposé qui, chez moi, d'un seul coup, fait remonter quantité de souvenirs, puisque j'ai directement participé à pas mal de volets de ce mouvement, y compris en organisant des espèces de visites guidées pour Français, groupes de Français à Berlin. Alors, je voulais juste réagir sur ce 2-3 points, peut-être un peu en complément. Il y a aussi le fait qu'au début, il y a la prise de conscience des habitants menacés d'expulsion de ce qui les attendait. C'est-à-dire que leur sort, c'était de se retrouver au Märkisches Viertel, à la Gropiusstadt ou dans les cités périphériques, qui au début, c'est un peu comme en France, qui au début paraissaient un immense progrès sur le plan de la qualité de l'urbanisme et qui très vite devenaient des quartiers à problème pour toutes les raisons qu'on peut connaître ailleurs. Et je crois que c'était un élément supplémentaire de refus, de rejet de cette politique. Et aussi un petit détail, c'est que s'il y avait autant d'immeubles vides, c'était certes il y avait la spéculation des propriétaires, mais c'est aussi parce que tout le système avait commencé à se gripper, puisque c'est la ville qui devait financer la démolition, etc. Et que le système se grippant, il y avait, comme vous l'avez dit, ce grand nombre d'immeubles vides. Et voilà, la nature et la culture ont horreur du vide, et c'est un des éléments d'explication. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est, vous l'avez aussi dit de manière un peu sous-entendue, C'est le calcul, en tout cas chez Ristock et chez une partie, en fait, des gens qui étaient de son bord, le calcul finalement intelligent de rétablir la paix sociale, non seulement par simplement la légalisation, mais par tout ce plan qui consistait à impliquer directement et de manière complètement légale et structurée les squatteurs dans la rénovation, dans la réhabilitation des immeubles et des appartements. S'ils apportaient 20% du coût total par leur travail personnel, c'est la ville qui apportait 80%. Et le calcul implicite, et qui a très bien fonctionné, c'est de se dire les gens qui auront eux-mêmes refait entièrement leurs immeubles, on peut être sûr que socialement et politiquement, ils seront stabilisés. Résultat des courses, 15 ans après, c'est eux qui se voient attaqués par les divers autonomes en tant que bourgeoisés et bien installés. Voilà, c'est quelques points simplement en ponctuation de toute cette histoire.
Peut-être la seule chose, c'est qu'effectivement, il faut comprendre, et ça c'est intéressant, c'est le système se grippe, oui, ça, c'est là-dessus que je reviens en fait. Le système se grippe à partir du moment où les bailleurs sociaux, donc les sociétés immobilières en régie directe, qui est ce système des Berlin à Eigenbetriebe, qu'on retrouve dans l'eau, dans la construction des logements et dans le Müll et BVG, etc. Pour le logement, effectivement, ce système se grippe. Et en fait, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que ces occupations répondent à des problèmes qui, en fait, politiquement, ont déjà été identifiés, qu'on y a déjà apporté en partie des solutions, notamment politiquement exprimées par le sénateur au logement et à la construction, Bausenator, et que si ça avait pu être mis en place immédiatement, peut-être que ces rénovations n'auraient pas eu lieu. Mais là, il y a eu dans le contexte aussi politique difficile, d'une alternance, etc., instrumentalisation, et puis c'est parti tout seul, un peu comme ça, sans ça a échappé un peu à tout le monde, parce que aussi personne n'avait intérêt, c'est ce que je disais, à négocier avec les habitants. Hein. Cette idée très intéressante qu'on achète la paix sociale en faisant que les gens rénovent eux-mêmes et donc investissent leur émotion et leur énergie dans la rénovation de leurs propres immeubles, en fait, 10 ans avant, ça n'a intéressé personne. C'est-à-dire, l'idée était déjà là, elle avait déjà été, mais tout le monde s'est dit, ouais, les habitants, de toute façon, ils vont rien dire. Sauf que, en se parlant, ben, ils ont fait des choses. Et ça a échappé aux politiques.
Petite question. Même si les structures de pouvoir étaient différentes à Berlin-Est, mais est-ce que, puisqu'il y avait des mouvements alternatifs aussi qui existaient, qui étaient certes beaucoup plus minoritaires, est-ce qu'il y avait aussi toute cette dynamique de, si ce n'est Besetzung, mais au moins de formation de communautés autonomes, plus ou moins organisées?
Alors, ça a été un peu évoqué ce matin. Oui, et puis alors si on veut comparer ce qui est comparable, en fait, on peut aller dans deux directions. Soit on fait une comparaison diachronique, et dans ce cas-là, on compare plutôt les événements de Berlin-Ouest à Kreuzberg dans les années 80, début, ce que je viens de faire, et la Mainzer Straße 10 ans plus tard à Friedrichshain. Donc ça, c'est l'Est, mais après la chute du mur. Parce que là, il y a des logiques autonomes, radicales, d'insularisation, etc., d'invention aussi de formes de vivre ensemble vraiment alternatives. Donc ça, c'est plutôt la comparaison diachronique. Ou alors, si synchroniquement, on veut comparer Berlin-Est et Berlin-Ouest, alors le point de comparaison, c'est plutôt Prenzlauer Berg et le milieu alternatif de Prenzlauer Berg des années 80. Sauf que là, les revendications sont beaucoup, beaucoup plus faibles, et aussi parce que ce mouvement est, comme toujours en RDA, très fortement surveillé et investi par des inofficiels métamètres. Donc là-dessus, moi j'ai pas de réponse là-dessus. Hein. En revanche, il y a un article très intéressant qui sera dans une de mes notes de bas de page que je n'arrive pas à retrouver, évidemment, qui est, je peux pas le retrouver là, mais qui est en tout cas une histoire du quartier de Prenzlauer Berg qui est paru dans les 10 dernières années aux éditions Bebra, Berlin-Brandenburg Verlag, sur le quartier de Prenzlauer Berg. Et là, il y a un article, plus spécifiquement, sur le milieu alternatif à Prenzlauer Berg dans les années 80. C'est pas du tout... On peut comparer, parce que c'est synchronique, moment là, mais les revendications sont très différentes. Donc, en fait, la vraie comparaison, elle est plutôt diachronique. Et d'ailleurs, on retrouve en partie des mêmes personnes qui, dans les années 80, à Berlin-Ouest, sont allées faire la révolution à Kreuzberg et qui, après, se retrouvent Mainzer Straße, 10 ans plus tard, après la chute du mur, en train de coloniser un peu aussi les Berlinois de l'Est qui habitent sur place. Donc, c'est très complexe.
Je vais me permettre de poser une question aussi. Est-ce qu'il y a des, il y avait des, quelles étaient les relations entre les squatteurs et les Turcs de Kreuzberg, par exemple ?
Il y a un exemple, il y a un exemple dans la Görlitzer Straße, je crois, où en 81, c'est-à-dire au moment où ça se radicalise, un immeuble est investi par des habitants d'origine turque et avec le soutien du mouvement des occupants rénovateurs qui défendent aussi un magasin qui doit se faire expulser, etc. Et c'est de ça que tout part. Mais c'est un exemple. Donc, enfin, on parlait ce midi avec Krentas qui est reparti du fait que une partie de cette scène alternative berlinoise des années 80 était finalement très centrée sur elle-même. Elle était, il y a un film qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle B-Movie sur les milieux musicaux alternatifs dans les années 80 à Berlin, où on entend très clairement les gens dire à l'époque, parce qu'ils ont été filmés, ben l'Est, pff, ça m'intéresse pas des masses, moi je suis bien là où je suis, donc très très local, et de même les problèmes sociaux, spatiaux, etc. les intéressent, mais le problème de la migration qui finalement est très lié, puisque les personnes socialement faibles, c'est aussi les retraités, c'est aussi les personnes d'origine immigrée, etc., ça les intéresse un peu moins. Sauf que la Bürgerinitiative, elle a été créée autour de Kottbusser Tor et que là, il s'agit vraiment d'un conseil de quartier et que dans ce milieu des Verhandler, le cœur des négociateurs, là, il y a des habitants de toutes origines qui se rencontrent. Donc, du côté des Verhandler, oui, on prend en compte ce problème. Du côté des plus radicaux, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est plutôt la castagne et...
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, mais c'est... Je devrais... oui. Ah, c'est un peu tard. Voilà. On a encore un... Bon, dernière question, très courte, avant de passer à la pause café et de...
Alors, c'était moins une question que le fait qu'on peut voir à Berlin, il y a peu d'endroits où on peut voir de manière aussi radicale le contraste et la rupture entre la rénovation bulldozer et la conservation. C'est-à-dire quand on est autour de Kottbusser Tor, on voit, mais physiquement, dans l'Admiralstraße, comment la démolition, rénovation s'est arrêtée. Et le contraste entre ces deux époques et ces deux manières de traiter l'urbanisme.
Pour celles et ceux qui s'intéressent à marcher dans le quartier, vous essaierez d'aller sur les traces de la Dresdner Straße. La Dresdner Straße, qui est une très très vieille rue faubourg du vieux vieux Berlin, qui était la rue qui menait à Dresde, et qui n'existe que sur des toutes petites portions, en partie parce qu'elle a été effacée. On parlait d'effacement aussi. Elle a été effacée volontairement par ces nouveaux ensembles qui ont été construits. Et donc une vieille rue faubourg qui ne mène plus nulle part.
Merci Patrick encore pour cet exposé. Donc on va faire une courte pause café avant d'écouter donc le dernier exposé de ces journées d'études qui sera consacré à la Gropiusstadt.